culture d'islam d'Abdelwahab Meddeb, nous avons toujours le plaisir de recevoir Mohamed Harkoun, professeur émérite de la Sorbonne, professeur de l'histoire de la pensée islamique.
Exact.
Je crois que vous tenez à l'intituler de votre chaire.
Je tiens beaucoup parce que parler de pensée islamique est tout à fait différent que d'obéir aux divisions que nous avons héritées du XVIe siècle, des fractures intervenues au XVIe siècle entre la philosophie en particulier, la théologie, le droit, l'exégèse qui, dans la pensée islamique au Moyen-Âge, étaient absolument liées les unes aux autres.
Vous êtes un homme de science, Mohamed Harkoun, historien de la pensée. Votre tout premier livre était consacré à l'humanisme en islam, ce mouvement humaniste qui a existé.
Ça s'appelle l'humanisme arabe au Xe siècle.
Xe siècle.
À partir du XIe, il y a l'orthodoxie qui prend le dessus.
Alors justement,
c'est-à-dire que la ligne orthodoxe de la construction orthodoxe de la croyance musulmane prend le dessus, car il y a eu un conflit qui s'est développé dès le IXe siècle entre ce que l'on appelle les sciences rationnelles, qui comprennent donc la philosophie en particulier, toute la pensée philosophique.
Et les débuts de la théologie.
L'ulum al-aqliya. Et les sciences traditionnelles ou les sciences religieuses, l'ulum al-diniya. Et cette fracture, qui est une fracture épistémologique, c'est-à-dire la façon d'utiliser la raison et les procédures de raisonnement, les procédures de démonstration, les procédures de l'interrogation scientifique ne sont absolument pas les mêmes. Et ce conflit a une base sociologique et une base professionnelle. On a d'un côté les fuqahal, c'est-à-dire les juristes théologiens, qui évidemment sont essentiels pour la marche de l'État musulman, et puis les intellectuels, on pourrait dire, les philosophes, les scientifiques, ceux qui font des mathématiques, de l'astronomie, tout ce qui est effectivement lié à la philosophie au sens antique, qui désigne en même temps la pratique de la connaissance scientifique, la manière du corpus aristotélicien.
Il y a eu aussi ce mouvement théologien qui prenait aussi la raison, qui estimait que la raison était son primat.
Grâce à cette intervention importante du corpus, je dirais, grec, de la pensée grecque, platonicien et aristotélicien, et le corpus aristotélicien a pris le dessus et a donné lieu à ce que Derrida a appelé le logocentrisme, la pensée logocentriste, c'est-à-dire qui est centrée sur le logos, le primat du logos, c'est-à-dire le logos en grec désigne à la fois la raison, le langage, la recherche discursive, l'écriture discursive, etc. Et c'est ce courant-là qui s'est développé à partir du IXe siècle au point de toucher la théologie qui elle-même était en voie de formation. Et c'est à la faveur de ce contact avec les sciences rationnelles qu'il y a eu un mouvement théologique extrêmement important qui est connu sous le nom de mouvement mu'tazilite.
Alors, le mot même de mu'tazilite pour nos auditeurs, pour les initiés.
On raconte, il y a une anecdote, comme toujours, qui justifie cela. Wasil ibn Atta, qui était un des mu'tazilites dans une mosquée à Basra, s'est isolé dans un coin pour attirer des disciples et former un coin à part. Des autres.
Parce que la racine duquel le mot est extrait, la racine verbale,
c'est se mettre à l'écart.
Se mettre à l'écart.
Oui, se mettre à l'écart. Alors, est-ce qu'il s'est mis à l'écart ou on l'a mis à l'écart c'est, le sens est ambigu. En tout cas, historiquement, ce qui va arriver, c'est que justement, après quand même deux siècles de succès, on peut dire, l'islam orthodoxe, représenté en particulier par l'école Hanbalite, Ibn Hanbal, et qui va recevoir une base théologique avec l'Ash'ari au Xe siècle, va progressivement prendre le dessus, car c'est Ibn Hanbal, au IXe siècle exactement, entre 820 et 848, a mené l'opposition, la résistance contre ce courant mu'tazilite, cette école, car il y a eu une école qui est représentée par des esprits tout à fait exceptionnels et qui ont justement jeté les bases d'un humanisme arabe, c'est-à-dire d'expression arabe, à partir du 9e siècle, même à partir de la pratique théologique, car la théologie quand même est du côté de la science religieuse. La théologie, la raison théologique accepte l'a priori et tous les a priori de la révélation, c'est-à-dire de la parole de Dieu qui s'est manifestée et que la raison doit absolument accepter sans aucune espèce de restriction ou même de discussion, et doit par conséquent être une raison serve, c'est-à-dire au service. Elle est au service du donné révélé. Elle n'a pas toutes ses libertés. Cette définition est la même pour la théologie musulmane, la théologie juive et la théologie chrétienne. Mais en contexte musulman, au temps de la formation de la pensée islamique, c'est-à-dire 8e, 9e, 10e, car nous sommes encore dans la période de formation, c'est-à-dire d'émergence d'écoles diverses, il n'y a pas encore une force répressive, une école capable d'exercer une répression et de contrôler l'orthodoxie et de désigner l'hétérodoxe et l'orthodoxe. C'est cela aussi qu'il ne faut pas perdre de vue. Dans les trois premiers siècles de l'Égypte, nous sommes encore à l'âge des possibles, des avenirs possibles, des écoles possibles. Nous sommes dans le potentiel. Et ce potentiel a donné des résultats, et en particulier donc un courant philosophique qui a grandi à partir du 8e siècle, et grâce à l'expansion de la littérature philosophique, en particulier, je le répète, du corpus aristotélicien, ça a gagné les milieux religieux. Par exemple, l'école juridique d'Abu Hanifa est plutôt du côté du Mu'tazilisme. Alors, vous voyez comment, pourquoi j'insiste sur la notion de pensée islamique et pas de philosophie, théologie, etc., de spécialisation. Voilà, des juristes, par exemple, qui acceptent de travailler avec des théologiens, mais des théologiens qui représentent un courant rationalisant de la théologie, rationalisant jusqu'à poser au sujet du Coran lui-même des interrogations que, par la suite, avec l'orthodoxisation, on va cesser justement de poser. Et parmi les questions extrêmement importantes posées par l'école des Mu'tazilites, il y a celle qui a provoqué effectivement une inquisition de l'État au temps d'El-Ma'moun, le fameux calife El-Ma'moun.
Cette fois-ci, c'est au nom des thèses.
Alors justement, il y a là, il faut comprendre ça. Vous allez voir, parce que c'est une page extrêmement importante et décisive, et qu'il est très important de réactualiser aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation malheureuse au sens philosophique, pour la pensée et pour la raison, malheureuse en ce sens que ce que je suis en train d'expliquer, c'est-à-dire la possibilité d'émergence de toutes sortes de postures de la raison et des écoles, etc., va complètement disparaître. Donc, El-Ma'moun, 813-833.
Le calife, donc, à Bagdad.
Le calife à Bagdad, il prend le pouvoir après la mort de son frère Al-Amin, qui sont tous les deux les fils de le fameux Harun al-Rachid, que les Mille et une Nuits ont immortalisé, prend le pouvoir en 813 et il le garde jusqu'à sa mort en 833. Ça fait donc un assez long règne et il a marqué, c'est vraiment, il a ouvert les grandes portes à ce qui va devenir... on ne peut pas l'appeler autrement qu'humanisme, en ce sens que...
Déjà, les sources antiques, les sources grecques.
C'est l'exaltation de toutes les facultés de l'esprit, et en particulier de la raison, en tant que faculté qui s'occupe de la connaissance, du contrôle de la connaissance et de la production d'une connaissance critique. Et donc, c'est à ce moment-là que le calife El-Ma'moun crée les conditions en créant la fameuse maison de la philosophie, d'Al-Hikma, sagesse, mais par l'Hikma on désigne en réalité la philosophie.
En lien avec la médecine aussi, peut-être, non ?
Il y a eu donc une floraison de toutes sortes de chercheurs dans tous les domaines de la connaissance. Et on s'en rend compte, par exemple, dans le livre, un livre qui s'appelle « Mafatih al-ilm » de l'Khawarizmi,
les clés de la connaissance.
Clés de la connaissance, qui est une sorte d'encyclopédie réduite, évidemment, mais d'encyclopédie quand même, qui montrait déjà qu'il y avait tous les domaines de la connaissance qui étaient pris en charge par toutes sortes de chercheurs, d'intellectuels, etc.
D'institutions, donc.
Oui, c'est institutionnalisé, absolument. Et donc, le Mu'tazilisme, à ce moment-là, a pris une expansion sociologique dans les sociétés musulmanes, mais c'était surtout en Iran et en Irak. Le Mu'tazilisme a essayé de se répandre même jusqu'au Maghreb et en Andalousie. Et je cite ça aussi parce que c'est important. L'Andalousie et le Maghreb ont été convertis à l'école malikite juridique depuis le début de la conquête de l'Andalousie et du Maghreb, et les fuqaha n'ont jamais cessé de surveiller absolument toutes les autres attitudes, toutes les autres écoles qui pouvaient entrer en Andalousie et au Maghreb pour les éliminer. C'est ainsi, par exemple, qu'une école qui a été forte et représentée par d'éminents intellectuels dont Ibn Hazm, le fameux Ibn Hazm au XIe siècle à Cordoue, qui a représenté l'école Zahirite. C'est une autre école.
Exotérique, oui.
Autrement dit, vous voyez, nous sommes vraiment dans le pluralisme le plus dynamique. Et donc, les Mu'tazilites ont lancé cette théorie du Coran créé. Qu'est-ce que c'est que la théorie du Coran créé? Pour comprendre cela, il faut partir de trois concepts que je vais essayer d'expliquer. Il y a d'abord le concept de livre céleste.
Al-Kitab.
Al-Kitab. Le mot Kitab intervient souvent dans le Coran. Alors, le Kitab, tel qu'il intervient dans le Coran, ça n'est pas, évidemment, notre livre avec des feuilles, etc.
Ce qu'on appelle les Écritures, non ?
C'est une désignation symbolique qui est un livre conservé dans les cieux. Donc, il y a ça. Le livre qui est dans les cieux. Dans le Coran, on utilise la référence à Lawh al-Mahfouz, les tablettes de Moïse, etc. Mais ça, c'est encore une autre direction de la connaissance religieuse. Et dans le livre céleste, il y a la parole de Dieu. La parole de Dieu étant...
C'est Kalamullah, on a...
Kalamullah. Ouais. Alors, le Kalamullah n'a rien à voir avec ce kitab que nous appelons le Kitab, le Mus'haf. Alors, on dit en arabe le mushaf.
Pour désigner le Coran. Alors, physique le qui mushaf, circule parmi les hommes.
Exactement. Le mushaf, c'est-à-dire, il intervient à un moment donné de l'histoire. C'est ça qui est important à retenir. C'est ce que nous appellerions aujourd'hui l'historicité. C'est-à-dire le fait que ça intervient dans l'histoire des hommes, et donc il y a toute la contingence de tout ce qui intervient dans l'histoire des hommes. Alors, les Mu'tazilites ont voulu distinguer entre le statut, qui est un statut théologique, qui a son développement, sa connaissance, etc., du livre céleste et de la parole de Dieu qui est censée, inscrite dans ce livre. Mais tout ceci est métaphorique. Et puis, il y a les manifestations de ce livre, des fragments.
Les manifestations terrestres de ce livre.
Terrestres de ce livre. Ce qui nous est parvenu et nous a été communiqué par des prophètes ou des messagers, des envoyés. Et donc, le Coran est un de ces fragments.
Un de ces fragments en langue arabe serait-il...
Un de ces fragments de la parole infinie de Dieu.
Non, en langue arabe, mais serait-il l'équivalent du fragment en syriaque, comme il dit, c'est-à-dire en néo-araméen évangélique.
Non, attention.
Et la Torah en hébreu.
Même vous, là, vous voyez combien c'est délicat. Le seul fait de dire en français le mot fragment, on est dans le concret, le positif et même le positiviste. Non, un fragment, c'est-à-dire une partie infime de cette parole de Dieu qui est l'infini de Dieu. Donc le mot, on ne sait pas comment désigner cette partie de la parole de Dieu qui est révélée par l'intermédiaire de Mohammed, cette partie-là qui n'épuise absolument pas la parole de Dieu, elle va s'appeler Coran. Et quand elle va être mise par écrit, ça aussi c'est un grand problème. Quand est-ce qu'elle a été mise, comment, dans quelles conditions, c'est un immense problème. Bref, elle a été mise par écrit sur des feuillets avec une écriture arabe, etc. Alors, une fois que ce travail matériel est fait et que il va exister maintenant un mushaf, c'est-à-dire
un ensemble de feuillets mis en volume.
Voilà ce que ça veut dire. Donc, cette partie-là, je n'ose plus répéter fragment, cette partie-là de la parole de Dieu infinie va être traitée en termes de théologie comme la partie créée de la parole de Dieu. Créée, c'est-à-dire advenue dans l'histoire. Hadath, comme on dit, l'alam muhdath, le monde créé.
Et ces questions, alors là, de la différence entre substance, entre jauhar,
ça, justement, tous ces concepts-là sont des concepts qui viennent d'Aristote.
Voilà, mais pour dire l'immense complexité, en plus.
Oui, et ça vient de l'aristotélisme, de la pensée métaphysique aristotélicienne.
Parce que là aussi, vous donnez les schèmes généraux, mais ce qu'il faut rappeler à nos éditeurs, c'est que ce débat, à l'intérieur même du mu'tazilisme, était âpre. Les mu'tazilites, entre eux, n'étaient pas d'accord. Ils avaient d'énormes nuances.
Oui, bien sûr.
Puisqu'il y a au moins 5 points de vue internes au mu'tazilisme sur cette question du Coran créé ou incréé.
Il faut retenir toujours ce que nous sommes dans une époque, premier siècle au quatrième siècle, où tout est possible. C'est-à-dire...
Et de grands esprits aussi.
Toutes les inspirations...
Ça, c'est important de le rappeler.
Absolument. Toutes les intuitions, les découvertes étaient possibles, on pouvait les exprimer et on pouvait en débattre. Donc, l'école mu'tazilite elle-même est représentée par des esprits tellement originaux que chacun a été, si vous voulez, pouvait donner naissance à un courant à part. Par exemple, le grand nom Al-Jahir, qui est un immense esprit, immense, de liberté, de créativité.
Il n'était pas théologien, on peut dire, c'est plutôt un homme de lettres, il touchait à tout.
Mais il touchait absolument tout.
Était mu'tazilite, la retombée du mu'tazilisme dans le texte littéraire.
Une plume et une ironie acérée, on peut le comparer à Voltaire au XVIIIe siècle. Évidemment, je ne fais pas d'anachronisme, je parle de style simplement. Le style acéré et l'ironie de Voltaire. Transporté dans un milieu où il y avait tellement de problèmes à discuter qu'il fallait les mettre à distance, justement. C'est la distance critique et la distance par l'ironie. Voilà, par exemple, et le maître de Jahir, Ibrahim al-Nazam, aussi un immense esprit qui a parlé.
Lui, il était beaucoup plus théologien, Nazam, non ?
Il était théologien. Non, non, oui. Ce sont des catégories trop étroites pour ces esprits-là. Oui, absolument. C'est trop étroit, oui. Non, vraiment, c'est une époque qui mérite d'autres outils. Et tous les mots que nous empruntons aujourd'hui, nous les empruntons nécessairement au savoir tel que nous le divisons aujourd'hui dans nos spécialisations. Ce qui ne se faisait pas encore au Moyen-Âge.
En tous les cas, Mohamed Harkoun, cette théorie du Coran créé...
Alors, c'est très important, je termine.
Et elle semble être beaucoup plus convenir à nos esprits modernes que la folie du Coran telle qu'il circule parmi les humains comme parole même de Dieu en elle-même.
Oui, alors...
Qui est la doxa qui circule actuellement dans le sens commun islamique.
Il faut que les auditeurs retiennent toute l'histoire. Alors, pendant tout le règne de Ma'moun et de son successeur Al-Wathiq, qui lui succède de 833 à 848.
Al-Wathiq, dit en passant, et pour ceux qui connaissent bien la littérature, est le grand personnage de fiction, le personnage historique qui a été à l'origine du personnage de fiction du conte, le conte de Beckford, cet anglais qui écrivait en français à la fin du XVIIIe siècle, Vatek. Parce que dans Vatek, il y a retombée de tout ce débat mu'tazilite.
Donc, ça dure de 813 à 848, exactement.
Ça, c'est le mu'tazilisme au pouvoir.
presque au pouvoir.
On peut le dire.
Presque
oui.
au pouvoir.
Ouais. Presque idéologie d'État. Non,
presque au pouvoir. Parce qu'il est faux de dire ça aussi. Il faut tout corriger. Il faut tout corriger. Ah oui, oui. Il y a trop de choses qui ont été tellement simplifiées que c'est devenu un conte des mille et une nuits. C'est plus de l'histoire. Parce que la prise de pouvoir politique totale ne pouvait pas se faire avec des hommes de cette envergure. En réalité, les esprits de ce temps-là étaient affrontés à la question de l'autorité et du pouvoir. L'autorité qui se légitime soit par la philosophie politique, dans la ligne platonicienne et aristotélicienne, soit dans la ligne de la révélation coranique et des écritures, on peut remonter dans la ligne prophétique, etc., jusqu'à moi. Voilà deux lignes, évidemment différentes, mais qui ne s'excluaient pas dans ces temps-là de liberté et de pluralisme. Et ce problème de le pouvoir, au contraire, le pouvoir politique lui-même, tel qu'il est exercé, le pouvoir de décision, le pouvoir d'organiser la justice, etc., de diriger, ce pouvoir politique-là ne pouvait avoir de légitimité s'il ne la recevait d'une instance de légitimation, qui est l'instance de l'autorité. Nous retrouvons cela avec la pensée chrétienne chez Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin a des volumes entiers sur l'auctoritas et la potestas. Et en arabe, c'est le hukm et sulta. Il y a deux mots séparés. Et même l'intervention d'Ibn Hanbal contre ce courant-là reste dans ce cadre en amont de ce problème, en amont de l'autorité et
politique,
du pouvoir.
Oui.
De l'autorité et du pouvoir. Comment vais-je légitimer l'autorité au pouvoir ? En plus, Al-Ma'mun lui-même, c'était un grand esprit, c'est un humaniste. Il partageait avec les gens, il était capable de partager avec. C'était pas un analphabète comme on en a aujourd'hui à la tête de nos États. Mais bien sûr, donc il est faux de dire que quelqu'un comme Al-Ma'mun, qui discutait de plein pied avec tous ces gens-là, était obnubilé par l'exercice du pouvoir politique totalitaire.
Et pourquoi alors a-t-on réprimé d'une manière très surprenante...
Parce que les enjeux...
Ceux qui se sont opposés au mu'tazilisme, il y a eu cette opération inverse...
Alors, il y a eu...
Où la bonne cause, si oui, j'ose oui. dire, a été... a exercé le pouvoir d'une manière despotique.
Oui, c'est une lecture, encore une fois, moderniste, d'une situation...
Non, Ibn Hanbal, Mohamed Harkoun, vous n'allez pas ne pas l'admettre, a connu des moments terribles d'emprisonnement, d'incarcération, parce qu'il réfutait d'une manière radicale les thèses mu'taziliques, et particulièrement la thèse du Coran créé.
Exactement.
Quand on lui dit le Coran est-il créé, lui il répond il est incréé de toute éternité.
Oui, oui. C'est-à-dire même le mushaf, comme je nous l'avons dit, le mushaf là, on le considérait comme incréé. Il fait partie de la parole de Dieu. Il ne fait pas partie de l'histoire terrestre. Donc ça va très loin. Et la séparation, là, va très loin. Et cette séparation va durer longtemps. Et pour abréger, en 1017, nous sommes au début du XIe siècle, il y a donc plus de deux siècles qui sont passés, déjà en 848, avec le calife Moutawakil, il y a ce qu'on appelle la réaction sunnite, orthodoxe. C'est-à-dire on commence à mettre des freins à cette effervescence intellectuelle. Et ces freins vont grandir, mais ne vont pas opérer, puisqu'il va y avoir le Xe siècle, qui est l'épanouissement total de ce pluralisme qui a donné lieu à de grandes œuvres.
Il faut attendre. Dans lequel, d'ailleurs, est né votre auteur sur lequel vous avez consacré votre thèse, Miskawaï, qui a créé un très grand traité d'éthique.
Très grand traité d'éthique.
Que vous avez d'ailleurs vous-même traduit en français.
Exact. Et qui a aussi écrit un grand livre d'histoire qu'Ibn Khaldoun a connu et qui est rond avec l'écriture historiographique des annales qui utilisait encore les isnads, c'est-à-dire les chaînes d'appui des autorités qui racontaient des mini-récits qui composaient l'histoire, avec Tabari, le grand historien et exégète Tabari, qui est mort en Maine 923, début du Xe siècle, Et donc avec le calife Al-Qadir, avec cet édit qui a été lu dans les mosquées de Bagdad, et les historiens ont rapporté cela, et qui va interdire qu'on discute même
de cette thèse,
qu'elle soit mise en discussion, c'est interdit. Et ainsi, les Mu'tazilites vont vivre souterrainement, parce qu'ils n'ont pas totalement disparu, ils ne peuvent pas disparaître, parce qu'ils ont créé toute une littérature avec beaucoup de disciples, etc.
Mais pas très longtemps, quand même.
Mais ils vont entrer sous terre, après le XIe siècle, tandis que la politique des Seljoukides à partir du XIe siècle va devenir une politique d'orthodoxisation, c'est-à-dire de renforcement de la thèse orthodoxe qui va se nourrir de ces ulum naqliya, c'est-à-dire des sciences traditionnelles religieuses, et les autres sciences, on va les appeler des sciences étrangères, le ulum ad-dakhila, intruse. Dakhil, c'est quelque chose qui fait intrusion dans la sphère de connaissance et d'existence.
Immigrée presque.
Islamique. C'est un moment tournant pour l'histoire de la pensée islamique.
C'est à partir de ce moment-là que va naître l'institution de la médersa pour
Exactement, avec les madrassas à la fois au Maghreb.
Pour former les orthodoxes.
Et pour réduire pratiquement même la théologie, elle va se réduire progressivement au droit. C'est-à-dire au rituel et à la réglementation stricte du rituel. Et c'est un appauvrissement à la fois intellectuel et spirituel. Et ceci, malheureusement, va durer jusqu'à nos jours.
Rares les œuvres des Mu'tazilites qui nous sont parvenues. Elles nous sont parvenues que par les propos rapportés.
Il y a une grande œuvre de Al-Qadhi Abdel-Jabbar qui est du Xe siècle. Le Xe siècle est encore humaniste. Le calife Al-Qadir n'est pas encore intervenu. Donc il a fait une véritable encyclopédie qui s'appelle Al-Mughni. Et où on a vraiment...
Mais elle a été découverte très récemment, non ?
Alors, elle a été redécouverte au Yémen, parce que les Mu'tazilites se sont réfugiés au Yémen, qui était un pays musulman, mais qui appartenait à l'école zaïdite. Et les zaïdites avaient eu une théologie relativement ouverte, pas absolument ouverte, mais assez ouverte pour permettre à des Mu'tazilites de se réfugier. Mais ils étaient presque silencieux même là. Ils s'exprimaient, mais d'une façon très discrète. Autrement dit, cette parole-là, ou cette voix-là, qui est une voix de l'esprit, une direction de l'esprit, une direction de la connaissance dans le domaine religieux, va être réduite au silence. D'où une perte. C'est une perte de la connaissance, c'est une perte pour l'histoire de la pensée, et c'est une perte culturelle considérable. Il n'y a pas que le fait de l'élimination des Mu'tazilites, il y a aussi l'élimination de la philosophie elle-même après Ibn Rushd. Et là, il y a les historiens qui se battent depuis que l'intervention de Corbin, Henri Corbin, qui a écrit une œuvre magistrale et très imposante sur la direction chiite de la pensée islamique. Chiite, le chiisme dû aux décimains, c'est-à-dire des 12 imams, et le chiisme ismaélien, des 7 imams.
Oui.
Et dans cette ligne-là, une certaine forme de la philosophie a continué à vivre.
Plus platonicienne, peut-être, qu'aristotélicienne.
Justement, il est très difficile de lui donner un nom, parce qu'elle relève à la fois de ce qu'on appelle la théosophie, du gnostisme, de l'ésotérisme, du mysticisme. Elle appartient à tous ces courants à la fois. Alors, il y a aussi une certaine ontologie, c'est-à-dire une construction d'une philosophie de l'être, en particulier chez Moulla Sadra Shirazi, mais c'est mélangé avec toutes ces tendances-là. C'est pour cela qu'il est extrêmement difficile de lui donner un nom. Personnellement, je ne peux pas ne pas différencier le rationalisme grec de la philosophie grecque d'un certain rationalisme qui se mélange quand même à des usages de la raison, qui sont des usages qui relèvent aussi de l'ésotérisme, de l'expérience mystique personnelle de celui qui vit l'expérience de Dieu en tant que vie personnelle. Bon, tout ça, je ne porte pas de jugement de valeur, je dis simplement que c'est différent. Pour qu'on comprenne qu'est-ce que ça veut dire qu'après Ibn Rushd, la philosophie, avec son sens de l'interrogation et sa liberté d'interrogation, qui veut dire en même temps une liberté critique telle qu'elle s'est développée jusqu'à Ibn Rushd et qu'elle va continuer à se développer en Europe chrétienne, jusqu'à nos jours pratiquement, cette philosophie-là va disparaître, c'est-à-dire que le regard critique sur tout ce qui concerne la production dans le domaine de la religion, de la vie religieuse et de la pensée religieuse, ne va pas bénéficier de cet apport essentiel. Et je dis qu'il est essentiel, puisque dans la formation de la modernité en Europe, c'est la philosophie qui joue le rôle le plus décisif, avec évidemment l'intervention de la connaissance scientifique. Donc quand on fait une histoire comparée de ce qui est arrivé à la pensée islamique et de ce qui est arrivé en Europe, on voit que le XIIIe siècle, le XIIIe, XIVe siècle sont des moments tout à fait décisifs, en ce sens que la pensée islamique se rétrécit, son champ intellectuel se rétrécit, au moment même où, en Europe, ce même champ intellectuel va prendre un essor qui ne s'arrêtera jamais, jusqu'à présent. Ça, c'est un fait d'histoire. Et il est important pour comprendre le désarroi et l'espèce de vide devant lesquels les sociétés musulmanes vont se trouver après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire après les libérations de la domination coloniale. Parce que quand nous avons l'émergence des États qui prennent la souveraineté politique, ils se trouvent devant un vide. Un vide politique, un vide de la philosophie politique, un vide de la théologie politique. Alors que dans les siècles classiques dont nous venons de parler, ces vides n'existaient pas du tout. Au contraire, ils étaient en train de se remplir et de se construire et de s'ouvrir et de s'élargir.
Mais alors, Mohamed Harkoun, je sais que justement vous intervenez beaucoup, que vous avez, outre votre travail de savant et d'érudit, la volonté d'intervenir dans la cité, la volonté d'avoir même une vocation pédagogique, didactique. Oui, si je ne me trompe pas, vous avez eu à un moment ce qu'on peut appeler des leçons publiques radio diffusées sur la chaîne Radio Orient. Il m'est arrivé d'en écouter de temps en temps. J'ai trouvé
ça d'une écoute formidable, d'une immense utilité. Des lettres extrêmement touchantes.
D'une immense utilité pour le peuple. Vous avez même fait une leçon sur ce thème du Coran créé.
Qui a été très bien reçu.
Ce type, justement, d'information qui ne parvient pas. Et vous ne pensez pas qu'à partir de ces saillies des médias, il y a moyen de revenir à ces saillies pour construire quelque chose qui puisse correspondre à l'exigence à la fois de la sainteté de l'esprit et de l'ouverture que permet la modernité.
Oui, alors là, tel que vous venez de présenter les choses, il faut lever une ambiguïté que l'on rencontre malheureusement souvent. Ce que je viens de dire en tant qu'historien ne signifie pas du tout que, en revenant à cette période dont nous venons de parler, classique, on aura les clés pour construire notre présent.
Mais c'est au moins un point de départ et un rappel par rapport à l'immense pauvreté actuelle.
Oui, mais
la vision qu'a un croyant actuel du Coran, par exemple, et de son statut, comme parole même de Dieu, créerait au moins une problématique si on ressort ce qui a été pensé par les Mu'tazila et qui a été totalement oblitéré.
Mais vous savez comme moi que l'islam actuel, qui est un islam essentiellement politique et militant, a cette idée fondamentale que le modèle historique de production de l'histoire des sociétés musulmanes, c'est celui de Médine, du retour à Médine et non pas à ce Moyen-Âge classique et effervescent dont nous venons de parler, premièrement. Deuxièmement,
pour lutter contre cette pensée-là, nous avons jouer contre Médine, Bagdad, peut-être.
Oui, non. Mais il faut pas s'engager. Moi, je ne m'engage pas dans cette bataille comme cela. Parce que, à ce moment d'intervention, je dis ceci. La modernité est passée par là. Et la modernité qui a émergé dans les sociétés de l'Europe occidentale exclusivement, dans aucune autre culture du monde, ni dans la culture chinoise, qui est une grande culture et une grande pensée, ni indienne, auquel on réfère souvent, ni africaine, dans le monde, ce sont quelques sociétés occidentales qui ont construit la modernité. Et la modernité dont je parle ici, c'est quoi ? Eh bien, la modernité qui a repris les problèmes médiévaux, mais en introduisant une coupure totale. Coupure entre ce que les médiévaux appelaient le donné révélé, avec tout ce que cela veut dire, de révélation, de prophètes, de corpus religieux, de la parole de Dieu dans les Écritures saintes, etc., des théologies qui ont été... Tout cela, la modernité nous dit, c'est privé. Ça n'est plus de l'ordre de la raison qui cherche à construire
une communauté,
une base commune de référence pour la communauté scientifique et intellectuelle. Et on ne vous laisse pas entrer dans le cercle de cette nouvelle communauté si vous venez avec des idées qui viennent du moyen. Bien sûr, on peut parler de la religion, mais en tant qu'objet d'étude. C'est une coupure totale. Alors, cette coupure, d'ailleurs, est tellement totale qu'elle pose des problèmes aujourd'hui. Parce que si l'Europe a pu bénéficier de cette coupure et construire un autre modèle de production historique des sociétés, le monde est plein d'autres sociétés qui n'ont pas du tout connu ça. Et c'est cette coupure de l'Europe avec le reste du monde qui va créer les problèmes que nous vivons aujourd'hui, à savoir... Le surgissement de ces sociétés-là, à partir des années 60-70, dont la démographie a connu une expansion sans précédent dans l'histoire, et qui va créer un déséquilibre total entre les sociétés européennes et de l'Amérique du Nord, qui continuent leur chemin dans la modernité, et le reste du monde qui reste à la traîne, il faut bien le dire.
Et où situez-vous?
Et c'est ce déséquilibre-là que nous sommes en train de payer très cher. Et que l'islam, en tant que référence, cette fois-ci, comme force historique, qui est utilisée comme force historique politique, c'est cette référence-là qui a mis les sociétés musulmanes sur le devant de la scène politique, comme nous le voyons. Or, cette référence à cet islam-là est une référence qui ne tient compte ni de cet héritage dont nous avons parlé, il est complètement oublié, on ne l'enseigne pas, il n'y a pas eu de recherche historique avec des historiens qualifiés.
Les grands historiens qualifiés sont plutôt non-musulmans, parce que un des grands spécialistes des Mu'tazila, c'est Van Hess, dans sa très grande encyclopédie sur la construction de la théologie islamique.
Ça va dans le sens de ce que je dis. C'est-à-dire que la production des orientalistes, non seulement on ne la lit pas, mais
on la condamne.
Ce sont des ennemis de l'islam. Et quel islam ? Un islam imaginé et imaginaire. Pas du tout un islam historique.
Oui, mais alors, que faire ? Vous ne pensez pas que pédagogiquement, travailler à partir de cette anamnèse qui remettrait en circulation, en tous les cas, les problématiques médiévales lorsqu'elles sont à la fois de bon sens et qui porte en elle une immense profondeur, oui, je veux dire, qui honore ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on pourrait appeler d'une manière, je dirais, laïque, la sainteté de l'esprit.
Ben justement,
ce qui est dramatique dans les textes, par exemple, qui nous viennent de l'islam de nos jours, c'est leur immense pauvreté, c'est le déshonneur de l'esprit qu'ils incarnent.
Oui, oui. Ben justement, c'est ce que je viens de, il y a un livre qui va sortir, que j'ai écrit un nouveau livre sur l'humanisme, non pas pour reprendre l'humanisme médiéval,
historique, oui,
mais pour faire le point, justement.
Et si que
pouvons-nous faire dans la situation actuelle, dans les contextes musulmans d'aujourd'hui, que pouvons-nous faire à l'égard de ce que j'appelle la question humaniste? Je ne parle pas d'humanisme, je parle de la question humaniste. Alors, premièrement, la question humaniste ne se pose plus, parce qu'on est incapable de la poser. Pour la poser, il faut des bases culturelles et des bases...
Comment vous la formuleriez très vite comme visée, cette question humaniste?
Ben, c'est de réouvrir toutes les portes de l'esprit, de lui donner toutes les libertés.
Donc l'aventure de l'intellectuel.
Ben, absolument. Alors que là, nous vivons la fermeture, dans ce que j'appelle la clôture dogmatique.
Même pire que cela, l'aridité, le désert.
Et la répression. Et la répression, même par la tuerie. Donc, je définis la question humaniste comme le retour à la question de l'humanisme tel qu'il a été développé.
Donc, vous remettez sur le, si j'ose dire, sur le tapis...
La question humaniste.
La question humaniste telle qu'elle s'est exercée déjà.
Ce n'est pas la même chose de la mettre en circulation à partir des contextes islamiques d'aujourd'hui.
Bien sûr.
Et de le faire pour les Européens.
Bien sûr.
Parce que les Européens ne se sont jamais arrêtés. Au contraire, ils ont enrichi le débat.
Est-ce que vous pensez que une problématique comme celle du Coran créé est stratégique, si j'ose dire?
Elle est stratégique, parce que le Coran, aujourd'hui, envahit tout. Mais quel Coran? C'est le Coran de l'exégèse sauvage.
Et en même temps,
avec ce
credo total de l'occultation de la problématique Coran créé, incréé.
Oui, j'appelle exégèse sauvage cette situation où la revendication des droits démocratiques accordés à tous les citoyens fait que quiconque se dit musulman prend le droit d'intervenir dans le débat sur l'exégèse coranique en s'autorisant à ignorer même la grammaire arabe. Ne parlons pas de tous les problèmes que pose l'exégèse d'un texte ancien comme la Bible, comme les évangiles, comme les écritures de Bouddha, etc., etc. Il faut quand même un minimum de préparation.
Plus encore, Mohamed Harkoun, que cette lecture sauvage dont vous parlez, et qui est tout à fait présente, et qui est même montrée, qui est même diffusée, c'est ça qui me paraît extrêmement grave, et c'est la question que je voudrais vous poser, l'effet de toutes ces télévisions satellitaires, une télévision comme celle de Qra, qui veut dire « lit », où il y a ce type donc d'exégèse sauvage qui est diffusée et qui est entendu partout dans le monde arabe et qui a des effets ravageurs. Mais le deuxième élément qui me paraît terrible et tragique, sur ces mêmes télévisions satellitaires, on donne aussi la voix à des docteurs qui, eux, sont savants, mais qui appartiennent à la tradition qui émane de ce fameux édit que vous avez rappelé tout
exactement,
à l'heure,
donc
de l'interdit de penser. Nous avons d'une part donc des gens savants, certes, parce qu'ils ont la sophistication de cette tradition, mais dans l'interdit de penser hors un certain horizon très particulier, doublé de cette exégèse sauvage.
Exactement, oui.
La question théologique est que faire pour justement procéder à la fois à cette anamnèse comme préalable, anamnèse qui rétablirait par exemple le discours et ferait connaître l'effervescence du discours mortésilite sur la question du Coran, qui permettrait par la suite de rentrer dans ce que vous-même vous essayez de faire depuis plus de 50 ans. Je reviens encore à cette très belle introduction de la reprise de la traduction de Casimir
Scrimpoche
chez Garnier Flammarion. C'est 1970, sur le Coran, où vous proposiez donc la perspective sémiologique, la perspective anthropologique, la perspective linguistique.
Oui.
Donc, je crois qu'il y a cette double nécessité, travail d'anamnèse et d'adaptation donc au discours de la modernité. Comment ce travail que vous faites, que certains font, comment faire en sorte qu'ils puissent parvenir? Et est-ce que on a les moyens, je veux dire, d'être cette autre voie par rapport aux deux voies obscurantistes dont on parlait tout à l'heure?
Oui, mais même dans, là, nous sommes en France. La France est une démocratie et il y a des démocrates en France. On a toutes ces ressources en France. Eh bien, vous voyez dans quelle situation se trouve l'islam et les musulmans qui sont devenus des citoyens français et quel discours ils tiennent à propos de l'islam. Pas tous, heureusement, mais une majorité d'entre eux. Et cela pose un problème sur le fonctionnement d'une démocratie là où il y a vraiment démocratie. C'est-à-dire qu'on constate que cette démocratie ne peut pas prendre en charge ces problèmes nouveaux d'une population qui est encore emprisonnée dans la clôture dogmatique, héritée du passé, renforcée par l'idéologie des États autoritaristes qui ont pris le pouvoir après les indépendances et donc qui ont créé une situation encore pire d'ignorance à l'égard de cet islam, et cet islam qui est renforcé par les médias dont vous venez de décrire les ravages, il faut bien le dire, et les populations sont soumises et écoutent ces télévisions, elles n'ont pas suffisamment de lieux d'enseignement, d'espace de discussion gérée par des professeurs, des enseignants, pour pouvoir sortir de cette clôture dogmatique. Il n'y a pas une politique concertée de prise en charge politique par de vraies démocraties de ces problèmes qui font partie intégrante désormais des sociétés démocratiques du fait de la présence de cette catégorie de population et de citoyens. Ça, je parle alors là d'une critique adressée au fonctionnement de la démocratie. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de démocratie, parce que dans les pays musulmans, bon, on sait à quoi s'en tenir. Mais en France, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, il y a une démocratie. Eh bien, cette démocratie fonctionne d'une façon tellement ultra-libérale que ce libéralisme laisse à la dérive un grand nombre de citoyens qui ont besoin d'être pris en charge.
Merci beaucoup, Mohamed Harkoun. On découvre avec ses prémices, avec ses balbutiements, avec nos tâtonnements, que, en tous les cas, cette question très technique à laquelle maintenant nos auditeurs se familiarisent quelque peu, ou du moins je l'espère, cette notion donc de Coran créé, hérité du 9e siècle bagdadien mu'tazilite, peut-être une question,
un point d'appui.
Peut-être un point d'appui stratégique.
Pour faire un autre travail
dans le cadre démocratique. Donc c'est une question qui concerne finalement, c'est une question théologique, mais qui concerne l'enjeu démocratique. Merci Mohamed Harkoun. C'était Culture d'Islam d'Abdelwahab Meddeb. Son et technique, Philippe Palares. Réalisation, mise en onde, François Connac. Merci à eux deux.